Bonjour Olivier Subercico.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct pour ce quatrième numéro de Margot Guette. Vous êtes chargé de mission pour l'intégration sociale et professionnelle des réfugiés à la DDETSPP. On s'est mis d'accord pour que ce soit vous qui précisiez l'intégralité du sigle. Et en même temps, vu qu'on est dans les précisions, est-ce que vous pourriez nous donner pour commencer quelques chiffres, combien de demandeurs et demandeuses d'asile dans les Landes ?
Alors, juste pour préciser, donc la DDETSPP, Direction départementale de l'emploi, du travail, de la solidarité et des protections des populations, nouvellement créée en avril 2021, qui regroupe la DDCSPP, on ne va pas refaire l'acronyme, et l'UT Direct, qui regroupait l'inspection du travail et tous les services qui font du soutien aux entreprises et à l'accès à l'emploi. Donc voilà, donc sur les chiffres des demandeurs d'asile. Dans les Landes, on a plusieurs structures réparties sur le territoire qui accueillent des demandeurs d'asile. On en a une à Dax, une à Biscarrosse, une à Mont-de-Marsan, quoi, deux même à Mont-de-Marsan, et une à Aire-sur-Adour, et une qui est en train de se créer et de s'ouvrir sur le sud du département, sur les communes, les communautés des communes de Mont-de-Marsan, de Saint-Vincent-Tyrosse, Le Seignanc et un peu plus haut, Casse-Tête, tout ça. Voilà, donc tous ces territoires-là. Donc en tout, l'État a conventionné pour presque 500 places, 491 en précisément. Donc toutes ne sont pas occupées aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 300 demandeurs d'asile présents sur le département des Landes, au 17 novembre. Voilà. Et en plus, on a sur ces places-là, sur ces 491, on a 48 réfugiés qui ont eu le statut de réfugiés. Donc ils sont encore là sur ces structures. Ils ont encore 3 mois pour pouvoir trouver un logement, s'intégrer sur le territoire national. Ils ne sont pas forcément obligés de rester dans les Landes.
Ma question justement sur ces... alors, pas 491, mais donc 300 environ actuellement. Combien restent dans le département ?
Alors, c'est difficile à quantifier. Ce qu'on a pu faire grâce à un diagnostic qu'on a fait en 2020, la chargée de mission qui a suivi ce diagnostic, a essayé d'identifier les personnes qui ont pris des logements dans les Landes. En 2019, on était à 53 ménages, on va appeler ça, qui sont restés sur les Landes. Il faut dire qu'on a beaucoup de personnes isolées qui sont plutôt des hommes jeunes, entre 20 et 30 ans, qui sont sur ces structures-là. Donc c'est vrai que l'attrait du département pour eux, ils sont plutôt attirés par les grandes métropoles, Bordeaux, Paris, ils repartent. Voilà, faut comprendre que les demandeurs d'asile, ils choisissent pas de venir dans les Landes. C'est l'OFI qui répartit au niveau national ces personnes-là. Alors, on a eu l'exemple tout à l'heure qui voulait venir dans le sud pour avoir plus chaud. Donc, il est venu vers Bordeaux. Mais voilà, mais c'est vrai que cette répartition ne se fait pas comme ça. C'est un peu l'OFI qui définit un peu les lieux où ils vont atterrir. Et après, soit dans les 3 mois où ils ont leur statut, ils restent dans les CADA où ils peuvent s'installer dans leur territoire parce qu'ils trouvent un emploi. Parce que certaines familles restent plus facilement parce que le lien avec l'école amène de la socialisation et les familles sont plus tentées à rester parce que les enfants sont à l'école, il y a tout ce lien-là qui se fait. Voilà, mais c'est vrai que c'est... Donc on est voilà, sur 2019, on était à 53 ménages. Là, on a eu des places en plus de CADA, donc on estime qu'entre 80 et 100 personnes par an qui resteraient sur le département pour s'installer à plus long terme.
Et donc, votre rôle, ça consiste justement à les faire rester sur le territoire landais ou à les intégrer de manière plus générale?
Alors, on veut forcer personne. Ouais. C'est nous, c'est notre travail pour ceux qui veulent rester sur le département à travailler, à aider les structures qui les accompagnent à s'intégrer plus facilement. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur l'accès au logement, par exemple, sur l'accès à l'insertion vers l'emploi. Et on a un gros travail sur l'apprentissage linguistique.
Qui est inclus dans le contrat d'intégration républicaine.
Oui, c'est ça. Alors le CIR, le contrat d'intégration républicaine, c'est un contrat qui est signé. C'est un engagement réciproque entre l'État et la personne qui vient d'avoir son statut de protection. Donc il a un an pendant un an, il doit suivre des formations obligatoires. Donc dès qu'ils ont le statut, c'est signé avec l'OFI. Donc il y a une évaluation à la fois de leur niveau de langue, à la fois de leur capacité à travailler, donc l'insertion, est-ce qu'elle peut être rapide ou pas, Et donc l'OFI va définir le nombre d'heures de français qu'ils peuvent avoir. Alors depuis 2018, ces heures ont été doublées, la capacité d'heures a été doublée. Donc ils ont des tranches de 100 heures de formation, 200 heures, 400 heures ou jusqu'à 600 heures de formation obligatoire. Mmh. Voilà, ils sont obligés de les faire. Il y a 24 heures, deux fois 24 heures de formation citoyenne. Qu'on appelle citoyenne. Donc c'est un peu expliquer à ces gens-là les valeurs de la République en France, qu'est-ce que la laïcité, qu'est-ce qu'ont un peu les codes, un peu une introduction à la culture administrative française, voilà, avec tous ces subtilités, et voilà, donc essayer de comprendre, parce que voilà, il y en a beaucoup. Déjà pour nous c'est difficile, alors vous imaginez quelqu'un qui vient d'un pays où l'administration n'est pas du tout développée, ça peut être compliqué, donc il faut rappeler des choses. Donc il y a ces formations qui sont obligatoires, et après il y a l'accompagnement. Alors proposé par l'OFI, mais qui se fait en lien avec Pôle emploi, en lien avec la mission locale, avec Cap emploi pour les travailleurs handicapés, vers l'insertion professionnelle, en gros, voilà, toutes les démarches administratives qui sont à faire. Et nous, localement, sur le département, ma mission, c'est un peu de faire le lien entre tous ces partenaires, à la fois les CADA, donc le CPH. Alors, le CPH, c'est un centre provisoire d'hébergement qui n'accueille que des réfugiés, mais qui ont encore besoin d'accompagnement, c'est-à-dire que les gens qui sont pas pas autonomes, qui ont encore besoin de soutien pour pouvoir s'intégrer plus facilement. Donc, ils peuvent être accueillis 9 mois de plus, un accompagnement financé par l'État, hébergé par l'État, avec une participation financière de leur part, parce qu'ils ont un statut, ils ont des droits, et voilà, donc ils peuvent participer un peu financièrement à l'hébergement. Et donc là, ils sont accompagnés pendant 9 mois de plus, et là, il y a un travail plus profond qui est lié à l'insertion pro surtout, et à l'accès au logement, parce que c'est une vraie problématique aussi d'accès au logement, de découvrir c'est quoi la vie d'un appartement, les compteurs EDF, le gaz, ouais, le paiement du loyer, voilà, toutes ces logiques-là qui sont totalement naturelles pour nous, mais qui sont des fois très éloignées des vécus des personnes qui arrivent.
Vous avez évoqué un diagnostic produit en 2020 relatif aux personnes réfugiées dans le département des Landes. Il a donné lieu, si je ne m'abuse, à une mission transversale sur l'intégration des réfugiés. Est-ce que c'est correct?
Alors, c'est la mission transversale
qui a initié. Okay.
Qui a initié.
Il y avait un lien, savais bien.
Voilà. Au sein de la DDCSPP, et dans la fusion que j'expliquais tout à l'heure entre la cohésion sociale qui était dans la DDCSPP, qui s'occupe de l'accès au logement, des logements d'urgence et des personnes les plus précaires, et la DIREC avec tous les soutiens aux emplois et aux aides à l'emploi et au retour à l'activité professionnelle, il a été intéressant dans un pôle qu'on appelle Emploi Solidarité de créer cette mission qui... spécifique au public réfugié, parce qu'on voilà, on, le diagnostic l'a confirmé, mais on le savait intuitivement, la direction l'avait un peu en tête, c'est que l'intégration se passe à la fois par le logement. Il n'y a pas que l'emploi. L'emploi, ce n'est pas forcément entre guillemets, une problématique, parce que ce sont des gens qui sont volontaires, qui veulent travailler. Il y a actuellement un besoin de main-d'œuvre plutôt pas qualifié, donc ça rend, voilà, ils peuvent rentrer facilement dans le métier de l'emploi, dans le monde de l'emploi. Par contre, pour y rester, il faut un logement, il faut de la mobilité. Pour certains, la question de la langue est aussi un frein parce qu'il y a une question de sécurité, il y a une maîtrise. Voilà. Donc c'était l'idée de la mission transversale, c'est de traiter tous les sujets en même temps et de proposer avec tous les partenaires qui sont déjà très engagés sur le territoire.
C'est de rassembler aussi tous ces partenaires.
C'est de rassembler tous les partenaires qui existent, à la fois les structures CADA, CPH qui sont financées par l'État, mais aussi les associations locales qui sont très impliquées. Certains sont très impliqués à la fois dans l'apprentissage linguistique. Il y a beaucoup de bénévolat dans l'apprentissage linguistique qui vient en complément des cours obligatoires du CIR, parce que voilà, on s'aperçoit, c'est une des difficultés sur les Landes, mais qui a été confirmée par le diagnostic. On travaille avec la DTOFI là-dessus. Parce que ce qui est proposé n'est pas suffisant en termes d'intensité. C'est-à-dire que quand vous avez 600 heures, voilà, il faut presque une année de formation pour faire les 600 heures, alors que c'est des gens, ils ont envie de travailler, ils ont besoin de travailler, parce que les moins de 25 ans, ils sont comme tout le monde en France. À moins de 25 ans, vous n'avez pas d'aide sociale, type RSA et tout ça, donc vous êtes obligé de travailler. Et quand vous allez au travail, vous n'avez pas un cours de français, donc c'est un peu ces situations-là qui sont difficiles à créer. Donc on travaille avec l'OFI, les associations d'apprentissage linguistique bénévole, pour mettre en place des actions complémentaires, pour pouvoir quand même continuer à ce qu'ils apprennent le français, qu'ils ne perdent pas de temps. Et voilà, la mission, le rôle de la mission, c'est un peu de faire le lien entre tous ces acteurs locaux.
Qui sont donc qui fonctionnent par groupe de travail, c'est ça ?
Alors, on a fait trois groupes de travail, ouais. Un spécifique sur l'apprentissage linguistique, voilà, je viens un peu de vous en parler. Un spécifique sur l'accès au logement, où on a réuni les structures CADA, CPH, HUDA, hébergement d'urgence de demandeurs d'asile. Bon, c'est un peu comme des CADA, mais voilà, avec comme le CAO2R où était monsieur tout à l'heure. Et on a accès au logement, on a réuni les bailleurs sociaux. Les structures qui sont un peu spécialisées dans l'accompagnement vers le logement, comme la maison du logement Radax, pour essayer de trouver des outils. Mais des fois, ces outils, c'est assez basique, c'est juste aussi de l'information entre les acteurs, parce qu'on s'aperçoit que les bailleurs sociaux, ces structures-là, ont une connaissance du public, mais des fois pas suffisante pour avoir les spécificités de ces publics, voire essayer de voir où est-ce qu'il y a des trous dans tout ce qu'ils ont pu proposer, et qu'on construise ensemble des réponses adaptées pour mieux répondre à la fois aux travailleurs sociaux qui accompagnent ces gens-là, donc qu'ils ne soient pas un peu isolés avec les problématiques d'un public réfugié, mais aussi permettre à ces publics-là de mieux connaître tous les dispositifs qui existent et vers comment ça rentre là-dedans. Et après, on a tout un volet sur l'accompagnement vers l'emploi, qui est un vaste sujet parce que ça va de la formation professionnelle jusqu'à l'accès à l'emploi. Et voilà, essayer de construire. Et là, on est en réflexion de construire des parcours qui intègrent dans... L'idéal pour nous, ça serait de créer des parcours qui intègrent un aspect de formation au premier emploi dans les entreprises, qui intègrent à la fois du français, langue étrangère spécifique à l'entreprise et aux ateliers, voilà, avec du vocabulaire spécifique au métier, et avec un apprentissage technique spécifique à l'entreprise pour qu'il y ait des résultats et des pérennités d'emploi. Voilà, on sait que ça. On a eu des expériences qui ont marché à Air sur Adour sur les ouvriers agricoles, à la Scalande sur la logistique. Voilà, on a des expériences qui prouvent que ça peut marcher. Donc on essaye de. On va être tenté, parce que les groupes de travail ont eu lieu il y a quelques semaines, de mettre en place ça, ces dispositifs-là, pour avoir une intégration réussie, à la fois bénéfique pour les personnes, mais aussi pour les entreprises. Parce que c'est pareil, qu'il n'y ait pas de turnover, mais que les gens puissent rester. Avec une efficacité dans l'entreprise et que pour eux, ils puissent s'épanouir aussi dans ces activités.
Donc finalement, même sur l'intégration des personnes réfugiées, c'est intéressant de jouer collectif aussi, quoi.
Complètement. Non, complètement. C'est vrai que c'est une des difficultés de ce public-là, c'est qu'il a une spécificité. Alors, il y a la question de la langue, la question de l'interculturel, c'est-à-dire qu'ils ont des représentations sur ce qu'est le travail, ou pas d'ailleurs, des fois, aucune représentation de ce qu'est le travail en France, par exemple, ou un logement, mais voilà, ils ont toutes ces connaissances qui sont des fois très, très diverses et très compliquées à appréhender pour eux, mais aussi pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent. Donc voilà, comment ils représentent ce qu'est un logement, comment, voilà. Donc il y a tout ce travail-là, et c'est difficile de le faire qu'avec les acteurs qui accompagnent, qui sont spécialisés dans l'accompagnement-là, parce qu'ils les accompagnent, comme on a vu tout à l'heure, sur 6 mois, 9 mois, pas plus. Donc au bout d'un an, ils se retrouvent face à des personnes qui ne sont pas forcément formées à leurs spécificités. Et donc nous, l'idée, c'est de travailler en liaison entre les structures spécialisées et les acteurs de droit, qu'on appelle de droit commun dans la logique administrative, mais voilà, des instances de secteur, de la CAF, des associations locales, les collectivités locales, les CCAS des mairies, pour que ces liens-là se fassent et que... tout le monde est un peu au courant de ce que vit la personne en face d'eux et que voilà et que, qu'il y ait des liens qui se fassent assez aisément.
Merci Olivier Cybercheco pour toutes ces précisions sur l'intégration des personnes réfugiées dans le département des Landes. On retourne en musique avec la magnifique Okelo.
Heat wave and everybody's gone.